Chapitre 39. Après des jours et des jours à patauger dans la boue au milieu de monstrueuses créatures, Maxime déboula enfin dans un marais normal, loin d'être un lieu de villégiature, mais pas spécifiquement conçu pour tuer tous ceux qui s'y aventuraient. Pas étonnant qu'aucun ennemi ne soit jamais passé par les marécages pour attaquer Ildakar. Pour un sorcier de son envergure, c'était plus que limite, alors pour des mortels lambda, cerise sur le gâteau, Maxime avait semé à dessein. Cela dit, il était épuisé, sale de la tête aux pieds, et il crevait de faim. Quant à ses vêtements, on voyait bien qu'il ne lui ferait plus beaucoup d'usage. Grâce à son don, il avait pu éviter qu'il soit en lambeaux, mais il ne fallait pas demander la lune. Dans le même ordre d'idées, il empestait moins qu'on aurait pu le craindre, la magie toujours, mais beaucoup plus qu'il aurait souhaité. Que n'aurait-il pas donné pour participer à une délicate partie fine dans sa somptueuse villa? Des siècles plus tôt, il se consacrait corps et âme à sa ville. Avec Thora, il ne pensait qu'à Ildakar, leur véritable enfant. Mais il avait fini par honnir la cupidité et l'insouciance des nobles. Un effet secondaire de l'ennui à perpétuité, aurait-il parié. À l'abri du linceul de l'éternité, la société parfaite avait pourri de l'intérieur. S'il avait regardé la vérité en face, sa femme s'était contentée de fermer les yeux. Une des multiples raisons qui l'avait poussé à la haïr. À l'origine, Thora était fraîche et désirable, comme sa superbe cité. Mais tel un poisson, à force de rester au soleil, toutes les deux avaient pourri. Du coup, un siècle durant, Maxime avait réfléchi au meilleur moyen de dévaster Ildakar. S'il s'y prenait bien, les gens eux-mêmes finiraient par détruire leur environnement et leur vie. Quelle idée délicieuse! Un jeu en réalité. Une façon de se divertir quand l'éternité lui pesait trop. Jusqu'à ce que le linceul faiblisse, la magie elle-même vacillant puis changeant. Soudain, Ildakar était revenu dans le monde sans l'ombre d'une protection. En versant des fleuves de sang, les sorciers avaient réussi à réactiver le linceul, mais chaque fois la réparation durait moins longtemps. Le goût exquis de la liberté et la vision radieuse du monde extérieur avaient fini de convaincre Maxime. Décidément, il fallait tirer un grand coup de pied dans la fourmilière. De toute façon, Ildakar était fichu car la révolte couvait. Demandeur d'espérance et grand consommateur d'illusions, les pauvres de la ville s'étaient révélés très faciles à manipuler. Comme un chariot lesté de pierre, il suffisait de les pousser pour qu'ils dévalent une pente. Métaphoriquement parlant, c'était exactement ce que Masque Miroir avait fait. L'idéal de Maxime, c'était de recommencer ailleurs. Oui, créer une autre ville de légende, avec une société parfaite répondant à ses critères. Dès qu'il aurait trouvé son fief, il redeviendrait le sorcier en chef, sans l'abominable Thora par bonheur. Pour l'instant, cependant, son projet restait très vague. Alors qu'il avançait dans l'eau glauque, Maxime mobilisa son don pour rendre leur couleur à ses habits et atténuer sa propre puanteur. Son bouc, jadis parfaitement taillé, ressemblait à un buisson d'épineux et la barbe lui mangeait les joues. Entendant des bourdonnements, ces fichus vampires d'insectes encore, il lança un sort de pétrification. À la longue, toutes ces contrariétés petites ou grandes commençaient à lui peser. Sans chemin visible, il avançait tout droit, s'enfonçant dans des étendues de roseaux deux fois plus hauts que lui. Soudain, à sa grande surprise, il aperçut ce qui devait être une piste de gibier. En la suivant, il constata qu'elle s'élargissait. À cause des roseaux, voir loin devant soi était impossible, mais la boue se transforma peu à peu en eau, avec des poissons dedans, et il ne tarda pas à remarquer d'étranges paniers attachés à des cordes et à demi immergés. Des pièges ? Dans la terre humide, il y avait des empreintes. Celles d'Adessa ? Non. Leur rencontre remontait à des jours et il était sûr de l'avoir semé. À l'évidence, il approchait d'une forme de civilisation où on habitait au sec, le ventre bien rempli. Suivant toujours la piste au milieu des roseaux, le sorcier en chef déboucha sur une vraie route, ou quasiment. Quelques minutes après, il émergea des roseaux et découvrit une image paisible des berges du fleuve Chasse-Corbeau. D'un côté se dressait un village d'une quinzaine de huttes, les plus grandes sur pilotis. Sur un feu, des brochettes de poissons cuisaient lentement, une vision qui fit monter l'eau à la bouche de Maxime. Bon sang, il crevait de faim. Sans hâte particulière, les villageois vaquaient à leurs occupations. Alors que certains allaient et venaient en canot, de plus gros bateaux, quittant ce qui se révélait être un bras mort du fleuve, s'engageaient sur le chasse-corbeau lui-même. Maxime se sentit transporté de joie. Parce qu'il allait pouvoir manger, se changer et dormir au sec, bien entendu, mais pas seulement. Dans ce village, il y avait des gens, et pour construire sa ville de rêve, il avait besoin de bras. À la louche, il estima la population à une bonne centaine d'hommes, de femmes et d'enfants. Sans descendre de leur canot, les pêcheurs jetaient leurs prises sur les quais en bois, puis ils repartaient. À demi-nus, des villageois assis sur des nattes en roseaux se chargeaient de couper la tête des poissons et de les vider, sans jeter les entrailles, qu'ils stockaient soigneusement dans des seaux. Plus loin, quelques vieilles femmes entretenaient les feux servant à affumer la chair des poissons. Un peu à l'écart, des jeunes gens tressaient des paniers avec des roseaux et des herbes. À côté, des femmes torsadaient elles aussi des roseaux, mais afin de créer de solides filets. Les pieds dans l'eau, d'autres villageois des deux sexes récoltaient des algues et des racines dégoulinantes de tourbe. Même les enfants travaillaient. Sur des planches à bras, ils allaient et venaient le long de la berge, traînant dans l'eau des filets qui se remplissaient peu à peu de poissons aux écailles grisâtres. Une économie primitive, certes, mais dynamique. De quoi ravir le sorcier en chef. Son nouveau village, à l'évidence, avait du potentiel. Après s'être essuyé les joues, histoire qu'il ne reste plus la moindre trace de boue, Maxime passa une main dans ses cheveux bruns, trop longs à son goût, mais il devrait faire avec. En usant intelligemment de son don, il pourrait forcer les villageois à penser du bien de lui, puis à le voir comme leur nouveau chef. Alors il goberait tout ce qu'il leur raconterait. Dans un lointain passé, il avait utilisé ce pouvoir pour se faire aimer de Thora. À l'époque, il aurait sacrifié n'importe quoi pour l'avoir. Il la désirait tant. Par les gonades du gardien, que n'aurait-il pas donné pour remonter le temps et conseiller à son double juvénile de ne pas gaspiller son énergie? Pour être franc, sa relation avec Thora n'avait pas toujours été un calvaire, un siècle de bonheur sur 15 à peu près. La consolation, c'était qu'il ne reverrait plus cette harpie. Avançant à découvert, Maxime leva les bras en signe d'amitié. Dès qu'ils le virent, les villageois se turent et s'immobilisèrent, pétrifiés sans qu'il ait eu besoin de lancer le moindre sort. Voyant qu'il avait toute leur attention, le sorcier fit jaillir un éclair dans le ciel sans nuages, puis il afficha un sourire patelin et reprit son chemin. « Je vous salue cordialement, » dit-il. « Je me nomme Maxime et je suis le sorcier en chef d'Ildakar. » Laissant le nom de la ville faire son petit effet, Maxime sourit de plus belle. Puis il lança un sort aussi discret et léger que le souffle d'une brise par un bel après-midi d'été. « Enfin, » corrigea-t-il, « j'étais le sorcier en chef d'Ildakar. Maintenant, je suis le vôtre. Quel est le nom de mon village ?»«
Tarada, »
répondit une vieille femme occupée à confectionner un filet.
« Nous sommes des gens très simples et nous ne possédons rien. Si tu viens pour nous détrousser, tu seras déçu. »«
Je ne suis pas là pour ça. C'est votre potentiel qui m'intéresse. Vous avez un chef, je suppose ?»«
Il se présente, car j'ai hâte de connaître mon fidèle bras droit. »
L'air morose, un grand type musclé d'une quarantaine d'années avança vers Maxime. Les cheveux châtains coupés courts, il lui manquait deux doigts à la main gauche.
« Je m'appelle Daner. J'arbitre les conflits quand il y en a. Sinon, Tarada n'a pas besoin d'un dirigeant. »«
Pourtant, vous en avez un. Le sorcier en chef, rien que ça. »
Maxime renforça son sort de séduction. Aussitôt, des villageois sourirent ou hochèrent la tête.
« Nous n'avons jamais eu de sorcier en chef. »
objecta Daner.
Certes, mais il faut un début à tout, et c'est un grand jour pour votre village. À partir d'aujourd'hui, je vous aiderai à voir plus grand. Avec vous, mes sujets, je ferai de Tarada une brillante et puissante cité. Cette idée ne vous a jamais traversé l'esprit, mais je suis là maintenant.
Maxime sourit à ses nouveaux séides. Ici, au moins, il n'avait pas besoin de porter un masque, et ses primitifs étaient déjà en son pouvoir.
« Pour commencer, il me faut de quoi manger, des vêtements neufs et une résidence adaptée à mon statut. »
Maxime se tourna vers le chef du village. Si ce demeuré n'avait pas encore compris qu'il n'avait plus aucun pouvoir, ça ne tarderait pas à entrer dans son crâne. Se languissant des beautés qui participaient à ses parties de plaisir à Ildakar, il sonda la moitié féminine de l'assemblée. En quittant précipitamment la cité désormais Oni, il ne s'était pas posé de questions sur sa vie amoureuse à venir. Dans l'urgence, ça aurait été d'une rare stupidité. À présent, il crevait d'envie de serrer une femme dans ses bras et de l'entendre gémir de plaisir à la seule idée d'être la compagne d'oreiller du sorcier en chef. Hélas, à Tarada, les femmes étaient des plus ordinaires, usées par une vie de labeur et de privation, sans doute. En cherchant bien, Maxime repéra quelques jeunesses susceptibles de lui plaire. À condition de les laver et de les arranger un peu, ça devait pouvoir coller. De plus, si Tarada lui offrait une nouvelle vie et un nouveau règne, il faudrait bien qu'il se fende de quelques compensations. Distinguer certaines de ces villageoises en serait une parmi d'autres. Dans leur canot, les pêcheurs ouvraient de grands yeux. Qui était donc l'étranger que le village entier, à part eux, regardait avec amour? Quand de plus grands bateaux revinrent au port, Maxime les accueillit chaleureusement. Sur le village, son don tissait une toile qui apaisait les esprits et les disposait à l'aimer. En d'autres termes, la partie était gagnée et il ne lui restait plus qu'à régler les détails. En quelques jours, grâce aux efforts de Maxime, Tarada se métamorphosa. Après la démolition des 5 plus petites huttes, leurs composants servirent à ériger un fief digne du sorcier en chef. Pas un palais selon les critères d'Ildakar, mais une résidence acceptable et surtout d'une taille et d'une splendeur écrasantes par rapport aux autres habitations. Jusque-là, l'activité principale des villageois consistait à trouver de la nourriture. Pour des primitifs, ils s'en tiraient plutôt bien. Mais Maxime avait d'autres ambitions. Son nouvel empire, il fallait qu'il commence à le construire quelque part. Au début, Ildakar n'était qu'un modeste village au bord du fleuve Chasse-Corbeau. Une fois bien installé à Tarada, le sorcier en chef pourrait viser plus haut, sans doute une des villes portuaires, le long du fleuve. En attendant, Tarada était un bon début et il se félicitait de voir son plan se développer sans accroc. Contre toute attente, Daner était un bras droit brillant. Connaissant tout de Tarada et de ses habitants, il se dévouait corps et âme à son nouveau maître, qui le tenait fermement dans les raies de son sortilège de subordination. Dès qu'il eut repéré deux jeunes femmes dignes de lui, dont la propre fille de Daner, Maxime en fit ses maîtresses, leur permettant ainsi de parader d'importance. Au lit, elles se révélèrent inexpérimentées et dépourvues d'imagination, mais avec un professeur comme lui, elles ne tarderaient pas à progresser, sinon il y avait d'autres candidates acceptables. Pour la première fois de son départ d'Ildakar, Maxime crut de nouveau à son étoile. Jusqu'à l'arrivée d'Adessa. Depuis son installation une semaine plus tôt, Maxime avait préparé ses sujets à l'irruption d'une étrangère. Des sentinelles veillaient, prêtes à signaler toute présence indésirable. Hélas, Adessa était discrète et vive. Du coup, tout le monde fut surpris quand une femme déboula dans le village.
« La moragite est là, aux armes !»
Quelques instants plus tard, Maxime sortit de son palais de roseaux. Adessa arrivait déjà, arme au poing. Influencée par le sort de séduction, un vieux pêcheur voulut lui barrer le chemin, mais elle coupa en deux le manche du long crochet qu'il brandissait, puis lui ouvrit le ventre d'un coup de couteau négligent.
« Maxime, c'est ta tête que je viens chercher, sur ordre de la Sovrena. »
Une moracite étant immunisée contre toute magie, le sorcier en chef cria.
« Fidèle sujet, protégez-moi !»
Déjà soumis à sa volonté, les villageois ne résistèrent pas à un rebond des effets du sort de séduction. Un rictus sur les lèvres, Daner fut le premier à charger.
« Tu ne feras pas de mal à notre sorcier en chef, étrangère !»
Deux pêcheurs rejoignirent l'ancien dirigeant du village. Adessa les regarda comme s'ils étaient des moustiques importuns. Un peu partout, les villageois s'emparaient d'armes improvisées comme il convenait. Maxime avait besoin d'une diversion, rien de plus. De fait, Daner et ses compagnons ralentirent un moment Adessa, mais elle ne tarda pas à les mettre hors d'état de nuire. Hurlant de rage, la fille de Daner bondit et jeta un filet sur Adessa. Surprise, la moracite tituba, puis tenta de se libérer, mais ses armes s'en mêlèrent dans les mailles. Encouragée, des dizaines de villageois fondirent sur Adessa et la rouèrent de coups de bâton. Avec l'audace de l'inconscience, un gamin se faufila et tenta de la frapper aux jambes avec son couteau. D'un coup de pied, Adessa l'envoya valdinguer dans l'eau. Ensuite, elle se libéra et fit face à la meute de villageois. Cette fois, elle prit l'affaire au sérieux. Virevoltant comme si elle était en démonstration dans l'arène, elle tailla en pièces les malheureux qui fondaient sur elle. Certains parvinrent à la toucher, mais elle ne semblait pas sentir la douleur. Avec calme et méthode, elle continua à frapper et fit un carnage. Conscient qu'ils connaîtraient le même destin que les premiers, Maxime envoya d'autres villageois combattre la furie. Alors qu'ils tombaient les uns après les autres, le sort de séduction faiblit par manque de focale. Libérés de son emprise, les guerriers improvisés s'écartèrent de leur adversaire. Maxime comprit qu'il était temps de changer de tactique. « Ce village, songea-t-il, n'aurait jamais pu être le cœur de son nouvel empire. C'était en réalité une expérience, une étape sur le chemin de la gloire, pour dire les choses autrement. Afin de se tirer vivant de cette affaire, il allait devoir recourir à la force de frappe suprême de son don. Sa magie n'affecterait pas Adessa, mais il était assez intelligent pour s'en servir indirectement. Son don, il le concentra sur les eaux glauques du bras mort. Alors qu'Adessa massacrait les derniers villageois, Maxime déchaîna un raz-de-marée qui engloutit Tarada en une fraction de seconde. Son palais rasé, aucune hutte ne résista. Bien campé sur ses jambes, la Moracite se prépara à encaisser le choc. Maxime passa à la seconde partie de son plan. Faisant bouillir l'eau, il la transforma en un flot tumultueux qui emporta tout sur son passage, y compris Adessa qui s'en tirait sûrement, mais ça n'était pas si grave que ça. Un nuage de vapeur monta du raz-de-marée, aussi impénétrable qu'un brouillard en hiver. Dissimulé par ce manteau complice, Maxime détala sans demander son reste. Filant vers une barque qu'il avait repérée, il sauta à bord et se mit à ramer en direction du fleuve. De là, il pourrait fuir jusqu'au bout du monde.